Comme vient de le dire Marc Etienne, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Luc. L'Évangile de Luc au chapitre 23. La lecture sera un petit peu longue, mais je pense qu'elle est nécessaire. Mais avant la lecture, j'aimerais poser une ou deux questions à l'Assemblée. Est-ce que la condamnation d'un homme innocent peut découler du bien, c'est-à-dire la joie, la paix, l'espoir? Peut-on vraiment se réjouir de la mort d'un innocent? En septembre 1999, Charles Mintze a été exécuté en Caroline du Nord. Après 6 ans d'attente, il est mort pour un crime qu'un autre, plus tard, confessera avoir commis. Derrière cette erreur judiciaire, une famille a été détruite parce qu'un innocent était mort. Une famille détruite, l'injustice et également une rébellion, une colère contre la justice. La Bible nous parle aussi d'un homme qui a souffert. Il est l'exemple par excellence de la souffrance injuste, car quand on y pense, sa mort était réellement injuste. Il était accusé à tort, il n'avait rien qui méritait la peine de mort, mais de l'injustice au plan humain, Dieu a fait briller sa justice, parce qu'il avait prévu qu'un homme juste puisse payer pour le péché de gens injustes comme nous. Alors je vous invite à faire la lecture au chapitre 23 de Luc, verset 1er. Ils se levèrent tous ensemble, le conduisirent devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser en disant « Nous avons trouvé cet individu en train d'inciter notre nation à la révolte. Il empêche de payer les impôts à César. Il se dit lui-même Christ, roi. » Pilate lui demanda « Es-tu le roi des Juifs ?»« Toi ?» Il lui répondit « C'est toi qui le dis. » Pilate dit aux grands prêtres et aux foules « Je ne trouve rien qui mérite condamnation chez cet homme. » Mais ils insistèrent et le dirent « Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. » Quand Pilate entendit cela, il demanda si cet homme était galiléen. Ayant appris qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il envoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ce jour-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il se réjouit grandement. Depuis longtemps, en effet, il voulait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait le voir produire quelques signes. Il interrogea longuement, mais Jésus ne lui répondit rien. Le grand prêtre et les scribes étaient là et l'accusaient avec véhémence. Alors Hérode aussi, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit resplendissant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et les peuples et leur dit « Vous m'avez amené cet homme parce qu'il entraînerait le peuple à la révolte. Or moi, je l'ai interrogé devant vous et je n'ai rien trouvé chez lui qui mérite condamnation. » Rien de ce dont vous l'avez accusé. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Ainsi, rien de ce qu'il a fait ne mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait châtier. Ils s'écrièrent tous ensemble, supprime cet individu et relâche-nous Barabbas. Ce dernier avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur lança de nouveau le même appel, car il voulait relâcher Jésus. Mais eux criaient « Crucifie-le, crucifie-le ». Il leur dit pour la troisième fois « Quel mal a-t-il donc fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort, je le relâcherai donc après l'avoir fait châtier. » Mais ils insistèrent à grands cris en demandant qu'il soit crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate ordonna qu'advienne ce qu'il avait demandé. Il relâcha celui qui avait été jeté en prison pour une émeute et pour un meurtre, celui qu'il demandait. Quant à Jésus, il le livra à leur volonté. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui venait de la campagne, et le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande multitude du peuple, de femmes le suivaient. Celles-ci se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Car les jours viennent où l'on dira « Heureuses les femmes stériles, heureux les ventres qui n'ont pas mis au monde et les seins qui n'ont pas allaité. » Alors on se mettra à dire aux montagnes « Tombez sur nous et aux collines recouvrez-nous. » Car si l'on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? En conduisant en même temps deux autres, des malfaiteurs, qu'on allait exécuter avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, il se tournait en dérision en disant, « Il en a sauvé d'autres qui se sauvent lui-même s'il est le Christ, que Dieu, de Dieu celui qui a été choisi. » Le soldat aussi se moquait de lui. Il venait lui présenter du vin aigre en disant, « si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi au-dessus de lui cette inscription, « Cet homme est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendu en croix l'injurie en disant, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le raboua en disant, « N'as-tu donc aucune crainte de Dieu ?» Toi qui subis la même peine. Pour nous, c'est injuste, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Et il lui répondit, Amen, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. La lecture était longue, mais nécessaire pour notre compréhension, et j'aimerais juste pour ce matin m'arrêter sur la section du verset 39 à 43. Je regarde avec mon fils qui a 4 ans, j'ai un fils de 4 ans et un de 1 an et demi. Nous regardons les Marvel, ce sont des dessins animés de super-héros, et parmi ces super-héros, il y en a un qui s'appelle Captain America. Il est bleu, assez fort, avec un bouclier. Et à chaque fois qu'on regarde, mon fils dit, papa, ça c'est moi parce que j'aime la couleur bleue et parce que il est fort. Il s'identifie à cet héros. Et alors, il me dit, je sais pas pourquoi, et toi, tu es Thor. Thor, c'est celui qui a le marteau. Et donc, il trouve dans cet héros une identité, une identification, une ressemblance dans ces personnages de dessins animés. Et ici, dans ce que nous venons de lire, dans cette section 39-43, nous avons trois personnes clouées, qui sont clouées sous la croix, avec qui chacun pourrait peut-être s'identifier. Lorsque nous énumérons les caractéristiques de ces personnes, peut-être que vous vous retrouverez dans l'une des trois personnes. Donc la première personne que on va essayer de voir, c'est, je vais l'appeler le juste, l'homme innocent. Nous l'avons lu, cet homme ne devait pas subir cette peine, car il était innocent et reconnu par les deux autorités devant lesquelles il s'est présenté. D'abord devant Pilate, il dit « Je n'ai rien trouvé qui mérite la mort dans cet homme », ça c'est le verset 4, et devant Hérode qui l'a renvoyé à Pilate parce que lui aussi également n'avait rien trouvé dans cet homme qui méritait la mort. Et Pilate est même sur le point de relâcher cet homme parce que effectivement cet homme n'avait rien commis qui méritait la mort. Mais malheureusement, la pression de la foule l'oblige à le condamner. Et là, nous pourrions nous dire, quelle injustice, n'est-ce pas ? Quelle injustice. Et il n'a pas cherché à se défendre, il n'a pas dit un mot, nous dit la Bible. Comme un agneau qu'on mène à la boucherie, il n'a rien dit, il s'est laissé faire. Il n'avait rien fait, sinon annoncer l'amour de Dieu. Mais nous reviendrons un peu plus tard sur lui. Le deuxième, je vais l'appeler le brigand, prétentieux et injurieux. Voici ce qu'il dit à l'homme innocent. N'es-tu pas le Christ ? Avec un ton assez moqueur et hautain. C'est une personne qui est suffisante, elle se suffit à elle-même. Elle a tellement vécu sans Dieu que même à la mort, elle peut encore insulter Dieu et être arrogant. C'est une personne qui ne croit pas en Dieu. Il se moque de Dieu. Malgré la mort qui l'attend, il veut rester fier et orgueilleux. Et je me souviens, il y a 2 ans de cela, toujours avec l'Institut Biblique Belge, nous avons été à Gemel pour l'évangélisation également, comme ici, une semaine d'évangélisation, et nous sonnions aux portes. Et nous avions sonné à une maison, à une porte, et un homme est sorti de cette maison, il était tout maigre et tellement fragile et tellement tremblant. Et nous avons essayé de lui présenter l'évangile. Et il a dit, je suis à la fin de ma vie, j'ai un cancer, et il me reste très peu de temps de vivre, et Dieu, je n'en veux pas. Je n'en veux pas de Dieu, je veux mourir comme ça. Et nous étions assez choqués, surpris. On se dirait que lorsqu'on est proche de la mort, lorsqu'on est si souffrant et si près de la mort, ça serait le moment idéal, n'est-ce pas, de se tourner vers Dieu. Mais non, ce monsieur était tellement orgueilleux et qu'il a rejeté Dieu. Il a dit, je n'en veux pas, je veux mourir comme ça. Et on pourrait se dire, et on a rencontré plusieurs personnes tout au long de cette semaine qui ont rejeté et qui n'ont pas voulu entendre l'évangile et qui étaient fiers et tellement orgueilleux à un but d'eux-mêmes qu'ils ont dit, nous voulons continuer à vivre notre vie sans que Dieu s'en mêle. Et deuxièmement, ce brigand prétentieux et injurieux dit autre chose à cet homme innocent. Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Il pensait que la préoccupation de Dieu était de régler son problème actuel. Son problème était qu'il était crucifié, il était condamné à juste titre. Mais il voulait que Dieu intervienne, que Dieu le fasse descendre de sa croix, que Dieu puisse résoudre son problème présent. Mais le but de Dieu n'est pas de résoudre son problème présent, était de résoudre son problème à venir, le péché qui était en lui. Et souvent, lorsque nous partageons l'évangile aux personnes, aux gens, les personnes veulent nous présenter leurs problèmes. Ils disent, voilà, j'ai perdu un membre de ma famille, voilà pourquoi je ne crois pas en Dieu. Pourquoi il y a tellement de souffrance sur la terre si Dieu existe réellement? Et Dieu dit, oui, parce qu'il y a autant de souffrance sur la terre, c'est pour ça que je suis venu, pour régler le problème fondamental qui crée tout ce problème sur la terre, le péché. Mais il ne le voyait pas de cet œil-là. Lui, il voulait une solution à son problème maintenant. Régler son problème de sa crucifixion et à être un homme libre. Or, il n'aurait pas été réellement libre parce que nous savons que cet homme était sur la croix parce qu'il était brigand. C'était un criminel. Et cette attitude, cette vie a été produit à cause du péché. Et tant que ce problème du péché n'aurait pas été résolu dans la vie de cet homme, le descendre de la croix n'aurait rien changé, n'aurait pas résolu le problème. Et c'est ce qu'il ne comprenait pas. Donc son problème était réellement plus profond que simplement quitter cette croix. C'était à l'intérieur de lui-même. Son mode de vie, de bandit et de vivre sa vie comme il entendait, allait de toute façon continuer, même si Dieu l'aidait et résolvait ce problème qui était là actuellement. Et beaucoup de gens veulent que Dieu résoudre leurs problèmes actuels, leurs difficultés actuelles. Mais le Seigneur sait que le vrai problème, c'est ce qui est au fond de l'homme, ce qui est au fond de son cœur, c'est son péché. Donc le premier problème que Dieu veut résoudre dans l'homme, dans ta vie, dans ma vie, c'est le problème du péché. Et tout le reste est secondaire. Et je continuerai en parlant du deuxième brigand, qui est lui aussi là sur la croix. Et je vais l'appeler le brigand repentant. Le plus grand repentant, et voici ce que lui dit. Il dit, n'as-tu donc aucune crainte de Dieu? Contrairement à l'autre, ce brigand a du respect pour Dieu. Mais n'a pas foi réellement en Dieu, ou n'a pas donné sa vie à Dieu. Parce que s'il avait donné sa vie à Dieu, il ne serait pas sur cette croix, il ne serait pas ce brigand sur cette croix. Donc il a une connaissance de Dieu, une connaissance, peut-être qu'il a entendu parler de Dieu. Et beaucoup de personnes sont dans cette situation où ils connaissent Dieu. Oui, ils ont entendu parler de Dieu, ils ont une crainte de Dieu. Je respecte votre foi, je respecte Dieu, je sais qu'il y a un Dieu là-haut, mais voilà, ça m'intéresse pas plus que ça. Nous pouvons aussi reconnaître l'existence de Dieu, malheureusement cela ne peut pas nous sauver. Reconnaître que Dieu existe ne suffit pas. Croire que Dieu existe ne suffit pas pour nous sauver. Nous ne pouvons pas non plus espérer être sauvés au travers de la foi de notre épouse ou de nos parents. Il nous faut le reconnaître nous-mêmes et croire dans ce que Jésus a fait sur la croix. Et ce brigand ne va pas simplement s'arrêter à cette connaissance d'un Dieu qui existe, mais il va aller plus loin dans sa démarche. Et on continue, il dit, pour nous, c'est justice. Donc il répond au brigand injurieux et prétentieux. Pour nous, c'est justice. Nous recevons ce que méritent nos actes. Et il reconnaît. Il reconnaît que sa place était sur cette croix. Il reconnaît que c'était justice qu'il puisse mourir à cause de ce qu'il avait commis, à cause des actes qu'il avait commis. Leurs actes méritaient la mort et c'était juste. Comme nos actes aussi, nous dit la Bible, méritaient la mort. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Nos actes méritent la mort. Dieu nous laisse libres de nos choix. Mais soyons également prêts à accepter son jugement, comme cet homme, c'est juste. Soyons également prêts à accepter son jugement, puisque si nous ne voulons pas de lui ici sur terre, ça sera juste qu'il nous envoie loin de lui également en fin de temps, dans les tourments éternels. C'est juste que nous recevons ce que méritent nos actes. Mais il continue, il reconnaît sa situation. Je pense que c'est une première étape vers Dieu, c'est de reconnaître ce que nous sommes, c'est de reconnaître que ce que nous subissons est juste à cause de notre rébellion vis-à-vis de Dieu, de reconnaître que nous avons besoin de lui, de reconnaître que nous sommes pécheurs, et c'est ce qu'il fait. Il reconnaît que ses actes méritent la mort. Ses actes sont punissables et doivent être punis. Et il regarde celui qui est au milieu d'eux et dit à l'innocent donc, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il reconnaît que celui qui est à côté de lui, l'homme innocent, n'a rien fait de mal. Il voit dans l'innocent, dans cet homme juste à ses côtés, un espoir de salut pour lui. Il dit, celui-ci n'a rien fait de mal. Et il ne voit pas l'espoir pour sa condition présente. Il ne demande pas, comme l'autre, de quitter la croix, parce qu'il subit quelque chose qui est juste. Mais il voit dans la pureté, l'innocence de la personne à côté de lui, il voit l'espoir dans le futur, l'espoir dans l'éternité. Il voit une vie après la mort. Cet homme sur la croix n'a plus le temps de faire des œuvres ou des bonnes œuvres ou de faire des œuvres par rapport aux pauvres ou de faire tout ce que la religion pourrait lui demander pour être sûr d'être sauvé et d'être pardonné. Il n'a plus le temps, il est prêt à mourir. Mais là, sur la croix, il s'accroche à l'espoir que cet homme innocent peut lui apporter. Son seul espoir est donc l'homme juste à côté de lui. C'est comme s'il s'accrochait à cet homme. Il se disait peut-être par la pureté de cet homme qui est à côté de moi, je peux espérer moi-même aussi être justifié pour la vie après la mort. Il a compris que l'homme innocent à côté de lui était le moyen pour lui de rentrer dans la vie éternelle. Et il dit donc à cet homme, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Quand tu rentreras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Et la Bible nous dit que Jésus est également le bon berger, qu'aucun de ses brebis ne se perdront et personne ne les arrachera de sa main. Il n'y a donc aucune inquiétude. Une fois que nous lui donnons notre vie, nous sommes dans l'assurance de notre futur, car il nous gardera jusqu'au bout. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et il avait aucune inquiétude à avoir parce que Jésus se souviendra de lui. Nous découvrons au travers de ce deux brigands l'identité de cet homme que j'appelais le juste, l'innocent, Jésus. Nous découvrons au travers de ces deux personnes l'identité réelle de ce Jésus. Et c'est important de peut-être clarifier son identité, parce qu'à cette époque-là, il y avait d'autres personnes qui s'appelaient Jésus. Et au travers de ces brigands, premièrement, nous voyons que ce Jésus était le Christ. Au verset 39, il dit, « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Jésus était le Christ. Le Christ veut dire « loin de Dieu », le Messie. Pour les Juifs pensaient que Dieu... Pour les Juifs, penser que Dieu puisse devenir homme était une chose inimaginable. Ils attendaient le Messie, mais ils ne pouvaient pas imaginer que ce Messie puisse être Dieu lui-même. Et c'était lui, le Christ. Es-tu le Christ? Et Jésus et nous, aujourd'hui, pouvons dire, oui, c'était le Christ. C'était lui, le Christ. Et deuxièmement, ce Jésus, il était sauveur. Il dit, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Oui, Jésus est le sauveur. Dans le monde gréco-romain, où vivaient les premiers chrétiens, le titre sauveur était souvent donné aux rois et aux empereurs. Et leur rôle, c'était d'apporter la joie, la sécurité, la paix, la protection du malheur et de la mort à leur population. Et à ces personnes-là, on donnait ce titre de sauveur. Et Jésus, lui, a fait plus qu'un roi, plus qu'un empereur, car en mourant sur la croix, Jésus nous sauve de la perdition et de la mort. Il est le seul capable de sauver, car il a vaincu la mort en ressuscitant le troisième jour. Et dans la suite, ce Jésus dont il est question, il est le Christ, le Sauveur, il est également divin. Et ça, nous le voyons au verset 40, mais l'autre raboua en disant, « N'as-tu donc aucune crainte de Dieu ?» Jésus était divin. C'est pourquoi les Juifs cherchaient d'autant, non seulement parce qu'il annulait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père et se faisait lui-même égal à Dieu. Ça, c'est dans Jean 5, verset 18. Jésus se faisait lui-même égal à Dieu. Jésus était Dieu. Il était bien divin. Et Jésus, dont il est question ici, est également roi. Puisque le deuxième brigand lui dit, quand tu entreras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Il était roi. La royauté de Jésus doit bouleverser notre façon de voir la royauté, car notre manière de voir et notre façon de penser. C'était un roi qui, de condition divine, s'est abaissé. Il s'est fait homme et a pris la condition la plus vile par obéissance à son père. Il a manifesté qu'il était le roi en mourant sur la croix. C'est alors que Dieu l'a élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Et bientôt, tous les peuples et les nations plieront genoux devant lui et ils proclameront qu'il est Seigneur. À la gloire de Dieu, le Dieu de Dieu notre Père. Oui, Jésus est roi. Et ce Jésus roi est monté au ciel et est allé avec ce brigand qui a donné sa vie au Seigneur. Alors ce matin, la bonne nouvelle, ce serait que Jésus, le juste, l'innocent qui est mort, c'était Jésus, l'innocent. Le juste, il a souffert pour les injustes, afin de nous conduire à Dieu. Lui, le juste, et nous, moi, l'injuste. Il a fallu qu'il meure pour m'approcher de Dieu. Oui, Jésus est réellement et physiquement mort, une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Le Nouveau Testament célèbre ce fait. Jésus n'est pas resté au tombeau. Il a connu une résurrection, une victoire finale sur la mort. La mort n'a pas pu le retenir. Mort, où est ta victoire? La mort n'est même plus fin à la vie. Pour le chrétien, ceux qui ont mis leur foi dans cet homme innocent, qui ont mis leur foi en Jésus, la mort n'est même plus fin à la vie. Pour nous chrétiens, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, nous savons que la vie continue et nous savons qu'elle est meilleure. On n'est vu plus en suivant nos désirs, ni les désirs des hommes, mais nous suivons les désirs de celui qui a donné sa vie pour nous. La grâce de Dieu, la grâce que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est une nouvelle vie, une vie tout autre. Et si notre foi est en Christ, nous vivrons éternellement. Alors ce matin, est-ce que vous êtes misérable dans votre péché? Est-ce que vous vous sentez comme ce brigand perdu, sans espoir dans votre vie, dans votre péché? Je vous dirais ce matin, c'est une bonne situation. Parce qu'il y a une solution à cela. Au lieu de choisir plus de misère, choisissez le pardon que Christ, que Dieu nous donne au travers de Jésus. Choisissez le bonheur de la vie nouvelle au travers de Jésus. La vie avec Jésus comme roi. Le péché désigne le refus de la proposition de l'amour de Dieu. Péché, c'est se méfier de Dieu. C'est refuser de croire en son amour et le considérer comme un adversaire. Alors ce matin, lequel de ces deux personnes êtes-vous? Vous ne pouvez pas être la troisième personne, l'homme innocent, parce que aucun de nous ici n'est vraiment innocent. Lui seul a marché dignement devant Dieu. Alors lequel de deux personnes es-tu ou êtes-vous? Le brigand insolent ou le brigand repentant qui reconnaît qu'il a besoin d'être sauvé, qui reconnaît qu'il a besoin de la grâce de Dieu. Alors ce matin, si tu choisis de reconnaître que tu as besoin de Jésus et l'acceptes dans ton cœur qu'il est mort pour toi, Aujourd'hui, à la minute, tu seras avec lui. Et c'est ce qu'il a dit à cet homme qui s'est humilié. Aujourd'hui même, il n'est pas question de faire quoi que ce soit. Il n'est pas question de poser des œuvres ou de manifester quelque chose d'autre. C'est juste croire dans ce qu'il a fait. Aujourd'hui même. Aujourd'hui. Et aujourd'hui, le choix nous est donné. Le choix t'est donné de le choisir, de mettre ta confiance à lui, en lui, de t'humilier, de reconnaître que tu es pécheur et que tu as besoin de Jésus. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis, si tu dis oui à Jésus. Et je vais vous inviter à juste incliner vos têtes dans la prière et demander ce matin si quelqu'un ce matin veut, comme ce deuxième brigand, dire Seigneur, je veux être avec toi dans ton paradis aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux être avec toi dans le paradis. Si tu es là ce matin et que tu aimerais faire ce pas vers Jésus, reconnaître que Jésus a donné sa vie pour toi. Si tu es là ce matin, j'aimerais juste te demander de lever ta main. Si tu es là ce matin et que tu veux dire, oui, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai marché loin de Dieu. Je reconnais que j'ai marché sous la colère de Dieu. Mais aujourd'hui, je veux cesser d'être orgueilleux et fier. Je veux reconnaître l'amour de Dieu au travers de son Fils. Alors si ce matin tu es là, je t'inviterai juste à lever ta main pour dire, oui Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi dans ma vie. Merci pour la main qui s'est levée. Merci Seigneur. Alors nous allons prier pour ces personnes qui ont levé leurs mains et demander au Seigneur de les visiter et de manifester encore son amour dans leur vie. Prions. Seigneur notre Dieu, oui, ce matin nous reconnaissons que nous étions loin de toi, nous nous sommes égarés, nous étions un but de nous-mêmes, nous avons vécu par nous-mêmes, nous avons vécu selon nos désirs, selon nos propres désirs, selon les désirs de ce monde, Seigneur. Et ce matin, nous voulons venir vers toi par le moyen merveilleux que tu nous donnes, Jésus-Christ, qui s'est offert à la croix. Et ce matin, nous voulons reconnaître qu'il est mort pour nous, qu'il est mort pour nos péchés. Et qu'aujourd'hui, si nous lui donnons notre vie, nous sommes avec lui dans le paradis. Merci Seigneur pour cette assurance que nous pouvons avoir. Seigneur, merci pour mes sœurs qui viennent de lever leurs mains, reconnaissant qu'ils ont besoin de ton salut, qu'ils ont besoin de ton amour, de ton pardon. Merci Seigneur de les visiter et de leur manifester encore ton amour et qu'ils comprennent que tu es mort pour eux, que tu as donné ta vie pour eux et qu'ils peuvent entrer ainsi dans ton paradis et recevoir l'espérance de cette vie éternelle que tu donnes à tous ceux qui mettent leur foi en toi. Merci Seigneur pour ta grâce et ta bonté. En ton nom Jésus. Amen.